une nouvelle réunion multilatérale sur le dossier calédonien. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a invité les délégations pour une séance de discussion à 7h15 ce matin pour nous. L'inquiétude du monde économique. Les organisations patronales affirment que l'argent a arrêté de circuler en Nouvelle-Calédonie. L'échec des discussions politiques serait à l'origine de ce coup de frein à la consommation. En métropole, un homme de 23 ans interpellé pour assassinat. Il aurait tué son ex-petite amie âgée de 14 ans qui se rendait au collège. Son corps a été retrouvé lardé de coups de couteau. La situation n'a rien à voir avec le début de la pandémie de Covid. L'OMS rassure après le foyer d'antivirus sur un navire de croisière. L'actualité sportive du football et Paris est magique. Le PSG est virtuellement en finale de la Ligue des Champions. Les joueurs de la capitale mènent 1-0 contre le Bayern Munich à la demi-heure de jeu. Dembélé a ouvert le score après seulement 3 minutes. La météo en Nouvelle-Calédonie, le beau temps arrive sur le nord. Ailleurs, le temps est sec et bien ensoleillé. Les températures maximales sont comprises entre 26 et 31 degrés. Elles baissent sur la moitié sud et restent stables partout ailleurs.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir d'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'avenir institutionnel.
Oui, avec une nouvelle séance de discussion ce matin. Elle aura lieu à partir de 7h15 en visioconférence avec le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a invité les partenaires politiques calédoniens pour une réunion multilatérale. Il sera 22h15, heure de Paris. A priori, l'ensemble des délégations devraient y participer au commissariat ou en distanciel. Ces nouveaux échanges interviennent après la réunion de mardi dernier qui avait été entourée de la plus grande discrétion et qui n'avait pas permis d'avancer sur la question du corps électoral ni de fixer précisément la date des élections provinciales. Aucune information n'a été donnée sur l'ordre du jour de cette nouvelle séquence de discussion, mais elle devrait porter, une fois encore, sur le corps électoral et sur la date des provinciales. 2 ans après les émeutes, quel est l'état économique de la Nouvelle-Calédonie ? C'était le thème des rendez-vous de l'économie organisés hier soir par la CCI. Ils ont d'abord permis d'analyser les grandes tendances, mais aussi l'évolution de l'activité, de la consommation, de l'emploi, du tourisme ou encore du nickel. Avec un constat, le début de l'année 2026 est particulièrement difficile, souligne Stéphane Yotto, le vice-président de la CCI.
C'est incroyable la vitesse à laquelle l'argent a arrêté de circuler en 2026. C'est extraordinaire. Je pense qu'il y a une part de confiance. L'échec de l'accord institutionnel, que ce soit en premier Bougival ou Élisée Oudinot après, aujourd'hui nous laisse toujours dans une interrogation permanente sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je pense que ça a joué. Je pense que c'est d'abord et avant tout psychologique. C'est le manque de confiance.
Et c'est aussi lors de cette rencontre que les représentants des organisations patronales, MEDEF, CCI, CPME et FINC, ont présenté 5 propositions du monde économique pour soutenir l'économie et les entreprises. Ces 5 propositions sont les suivantes. Différer le paiement des cotisations patronales et des travailleurs indépendants pendant 3 ans et demi. Exonérer les cotisations salariales RUAM de façon partielle et dégressive. Supprimer la patente pendant 2 ans. Prolonger l'allocation exceptionnelle de maintien dans l'emploi jusqu'à mi-2028. Et enfin, proroger le dispositif et la prise en charge des commissions des garanties SOGEFOM. Ces mesures ne résoudront pas à elles seules la crise économique, mais elles doivent permettre de donner de l'air à tout le monde, souligne Stéphane Yotto.
C'est d'abord et avant tout de sauver les entreprises. En fait, on fait le constat, les uns et les autres, que l'année 2026, elle est terrible pour tous les secteurs. Certains, on les connaît, hein, le BTP, l'hôtellerie, mais aujourd'hui, les commerçants, les restaurateurs, dont certains étaient passés à travers les gouttes, nous disent que c'est catastrophique. Donc le fil rouge, c'est la trésorerie des entreprises, parce que le jour où on ne peut plus payer ses fournisseurs, le jour où on ne peut plus remplacer ses machines, on est mort. Ça, c'est le premier point. Mais il y a aussi cette volonté de redonner du pouvoir d'achat aux salariés, sachant qu'aujourd'hui, ce pouvoir d'achat, il sera consommé en Nouvelle-Calédonie.
Et des propositions sur lesquelles nous reviendrons en détail ce midi dans les jeudis de l'économie. Pour les détailler et mesurer leur pertinence, Jean-François Bodin recevra le président du MEDEF, Bertrand Courte, celui de la CPME, Christophe Dautieux, ainsi que Stéphane Yotto, le vice-président de la CCI.
Radio Rythme Bleu, 6h35.
L'incident diplomatique entre la France et le Vanuatu continue à faire des remous et à susciter des réactions après l'invitation d'une délégation commerciale conduite par le président du FLNKS. Dès mardi, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Calédonie a protesté contre le fait que cette mission, soi-disant commerciale, était conduite par le président du FLNKS en rappelant que le président du gouvernement est la seule autorité compétente pour représenter le territoire à l'extérieur. L'État a apporté son soutien au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et précisé que l'ambassadeur de France au Vanuatu ne participera à aucun des événements programmés dans le cadre de cette rencontre économique. L'ambassadeur de France au Vanuatu, Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Lionel Sabot.
Il indique notamment qu'il a rencontré le ministre du Commerce du Vanuatu pour échanger sur cette situation. Et il ajoute « Nous partageons la même volonté de développer les relations économiques entre nos deux territoires, ce qui rend cet incident d'autant plus regrettable. Il aurait pu être évité si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait été associé dès le départ. » L'ambassadeur de France précise aussi que plusieurs entrepreneurs calédoniens présents pour des raisons économiques se sont retrouvés dans une position inconfortable et que certains ont préféré quitter les discussions. Le paradoxe est cruel, ajoute Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer. Un forum censé renforcer les liens économiques a, par la méthode employée, produit l'effet inverse. En conclusion, il se dit profondément convaincu du potentiel de la relation économique et commerciale entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu et de la volonté politique des deux côtés de la développer dans la sérénité. Pour lui, cet épisode appelle à tirer des leçons, à mieux se comprendre et à poursuivre le travail ensemble dans notre intérêt commun.
Et à noter par ailleurs la suspension des relations entre la commune de Dimbéa et le Vanuatu. Ce qu'a fait le Vanuatu en invitant le FLNKS et surtout Christian Théin, plutôt que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, est une insulte à tous les Calédoniens qui ont souffert et qui souffrent des conséquences de 2024, indique le maire de Dimbéa, Cynthia Jean, qui annonce qu'elle suspend dès à présent et jusqu'à nouvel ordre les relations avec Port Vila, ville jumelle de Dimbéa. Et pendant ce temps, sur place, la délégation du FLNKS poursuit son déplacement et elle a notamment été reçue par le Premier ministre et le Premier vice-premier ministre du Vanuatu. Son président Christian Théin a accordé une interview au Vanuatu Daily Post dans laquelle il déclare notamment que Matthew et Hunter appartiennent au Vanuatu. Dans l'actualité politique, à présent la naissance d'un nouveau parti sur le territoire issu d'une association Volonté Calédonienne veut défendre une autre Calédonie dans la France. Arnold Legg, Claude Saran, Philippe Lemaître, Jean-Charles Moglia ou encore Bianca Hénin composent le bureau et étaient présents hier soir à l'Eau Vive pour une première réunion publique. Écoutez Bianca Hénin, la secrétaire de Volonté Calédonienne.
On est obligé aujourd'hui de défendre une autre Calédonie française. Et voilà pourquoi on a créé ce parti Volonté Calédonienne. On est dans une situation où la Nouvelle-Calédonie est en pleine perdition et il faut qu'il y ait un mouvement qui soit contre ce qui a été jusque-là, qui a été très mal fait. Donc il faut vraiment que les Calédoniens aillent voter parce qu'on les a un petit peu, soyons clairs, dégoûtés de la politique. Donc aujourd'hui, nous, on veut leur redonner un peu confiance et les prochaines élections provinciales, j'espère que nous y serons. Il faut vraiment aujourd'hui qu'il y ait une vraie fermeté pour dire ce qu'on veut en Nouvelle-Calédonie. Et les gens qui sont d'accord avec nous seront derrière nous. Nous voulons redonner autre chose à la Nouvelle-Calédonie parce qu'elle le mérite.
Des propos recueillis par Lionel Sabot, Volonté Calédonienne indique que pour les prochaines élections provinciales, la partie administrative sera sans doute compliquée. Pour le reste, tout est prêt, ont expliqué les membres de ce nouveau parti politique.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, tout d'abord. À l'unanimité, les auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent choqués que le Vanuatu ait invité une délégation du FLNKS et non le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à participer à une rencontre commerciale. Voici maintenant notre question du jour. Face à la recrudescence des actes de délinquance, êtes-vous favorable à l'armement des polices municipales ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et enfin, l'État veut faire des territoires français du Pacifique des puissances océaniennes. C'est la mission de l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, qui a multiplié les projets au cours des 3 dernières années. Nous en parlerons à 7h30 puisque l'ambassadrice de France dans le Pacifique sera notre invitée du matin sur Radio Rythme Bleu. Il est 6h passé de 41 minutes. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Les élections provinciales approchent et vous souhaitez voter par procuration ? La ville de Nouméa simplifie cette démarche pour tous les Nouméens.
Venez vous faire accompagner pour remplir votre demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. Vous avez deux options sans rendez-vous.
Déplacez-vous directement à l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 7h30 à 16h ou montez à bord du Proxibus. Il se déplace dans les quartiers du lundi au vendredi de 8h à 16h. Rendez-vous sur le site de la ville afin de connaître son emplacement exact.
Pour être sûr de pouvoir voter par procuration, n'attendez pas le dernier moment. Plus d'infos sur www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15.
Optique Boulary, la solution pour vos lunettes avec contrôle de la vue, même sans ordonnance. Vos marques préférées, Oakley, Maui Jim, Michael Kors, Ray-Ban et votre seconde paire, offertes toute l'année. Optique Boulary, l'opticien du Mont d'Or.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en métropole et une collégienne retrouvée morte. Ça s'est passé à Fère-en-Tardenois, dans l'Aisne. La jeune fille était âgée de seulement 14 ans et on apprend il y a quelques minutes qu'un suspect a été interpellé et placé en garde à vue, William Molinier.
Oui, un homme interpellé il y a moins d'une heure à Soissons, à 18h05 précisément. Un majeur âgé de 23 ans, sans profession, vivant chez ses parents. Les liens avec la victime restent à être confirmés formellement, mais il pourrait s'agir d'un ancien petit ami selon le parquet. D'après les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille s'est rendue ce matin à pied à son collège. Sur le chemin de l'école, elle a été victime d'une attaque à l'arme blanche. Le corps présentait de nombreuses plaies au niveau du cou. Quand les secours sont arrivée, elle était déjà décédée. Depuis la découverte du corps, 8 heures ce matin, de nombreux moyens ont été déployés par la gendarmerie, l'antenne GIGN de Reims, deux hélicoptères, un drone, une équipe cynophile. Les investigations se poursuivent. Il reste encore à déterminer les motivations du suspect interpellé. Le premier interrogatoire doit commencer dans la soirée.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Dans l'actualité sanitaire, c'est l'angoisse depuis la découverte du foyer d'antavirus sur le MV Hondus, ce navire de croisière actuellement au large de Tenerife. L'OMS assure qu'il n'y a pas de risque pour la santé globale. Sur le navire, les cas se multiplient toutefois. L'OMS recensait hier 8 cas, dont 3 confirmés par des tests. Et je le rappelle, 3 personnes sont mortes à la suite d'une infection à ce virus. Eh bien, c'est peut-être la fin du cauchemar pour les quelques 150 passagers de ce bateau. Yasmina Katou pour Europe 1.
Oui, le navire mouille actuellement au Cap-Vert, mais il devrait pouvoir accoster sur l'île espagnole de Tenerife d'ici 3 jours. Tous les passagers pourront être rapatriés s'ils ne sont pas malades. Sur le bateau, la situation semble maîtrisée. Les passagers portent des masques et évitent les rassemblements. 3 malades ont été évacués par avion vers les Pays-Bas aujourd'hui. En Suisse, un homme qui a participé à la croisière est actuellement hospitalisé à Zurich. Un Français a été identifié comme cas contact. Il a voyagé sur le même vol qu'une personne contaminée. Les malades semblent avoir été infectés par une souche bien précise de hantavirus, celle des Andes. C'est la seule souche qui peut se transmettre entre humains. Mais l'OMS se veut rassurante. Nous ne risquons pas une pandémie comme celle du Covid. Ce que confirme Anne Lavergne. Elle est responsable du laboratoire associé au Centre national de référence des hantavirus à l'Institut Pasteur de Guyane.
Ça ne va pas du tout induire une pandémie. Les gens ils vont être isolés. Il n'y aura pas du tout de diffusion. Et même une fois qu'ils seront sortis du bateau, il n'y aura pas de diffusion.
Par précaution, les autorités sanitaires françaises préparent un dispositif de suivi et de prise en charge pour le rapatriement des 5 Français encore à bord du navire.
Et on apprend que l'avion médicalisé a atterri aux Canaries pour préparer la bulle de protection d'un des patients. Donald Trump accentue la pression sur l'Iran entre promesses de nouvelles négociations, mais aussi menaces de bombardement massif. Le président américain a soufflé le chaud et le froid depuis hier. Difficile donc de décrypter les intentions de Donald Trump, mais le locataire de la Maison-Blanche semble en tout cas toujours croire à un prochain accord avec Téhéran, Alexis Bourdon.
Oui, les États-Unis attendent un signe de l'Iran, une proposition américaine pour mettre fin à la guerre est d'ailleurs toujours en cours d'examen. La République islamique précise qu'elle donnera une réponse au Pakistan, pays médiateur entre Washington et Téhéran. En attendant, pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio, l'opération Epic Fury, entamée le 28 février dernier, est désormais terminée.
L'opération Führer épique est terminée. Comme le président l'a signifié au Congrès, nous avons passé ce stade. C'est une opération défensive, cela veut dire quelque chose de très simple. Nous ne tirons pas, à moins qu'on nous tire dessus en premier. Nous ne les attaquons pas, mais s'ils nous attaquent ou s'ils attaquent un navire, nous allons riposter.
L'Iran pourrait ainsi accepter un moratoire sur le nucléaire et les États-Unis s'engager à débloquer des milliards de dollars de fonds iraniens gelés. Mais surtout, le détroit d'Ormuz serait lui aussi débloqué. Donald Trump laisse 48 heures à Téhéran, mais le président américain prévient, si l'Iran ne donne pas son accord, les frappes aériennes seront d'une ampleur bien plus importante.
Alexis Bourdon, d'Europe 1. Pendant ce temps, le Charles de Gaulle a mis le cap sur la mer Rouge. Le porte-avions français et son escadre ont franchi le canal de Suez pour se prépositionner dans la région du Golfe en cas de déclenchement d'une mission promue par Londres et Paris. L'objectif, rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz. En attendant, le carburant est toujours aussi cher. Le gouvernement a présenté de nouvelles mesures la nuit dernière. Et le sénateur Georges Naturel a écrit au Premier ministre Sébastien Lecornu. Il lui demande d'étendre à la Nouvelle-Calédonie les mesures mises en place par le gouvernement en métropole en faveur des transports routiers, des taxis, des pêcheurs, des agriculteurs, des artisans, du BTP, ainsi que des grands rouleurs modestes. En bref, dans l'actualité religieuse, le pape Léon XIV pourrait venir en France fin septembre. Voilà ce qu'affirme la conférence des évêques de France. Des étapes à Paris et à Lourdes sont envisagées. 6h47, vous écoutez RRB. On va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Casting Canal+. Tu es passionné de foot, tu as des talents d'orateur, alors c'est peut-être ton moment. Deviens commentateur de la Super League pour commenter 4 matchs en direct sur Pacific+. Tente ta chance dès maintenant sur le Facebook de Canal+. Tu as jusqu'au 17 mai pour postuler. Alors, prêt à prendre le micro ? Plus d'infos sur la page Facebook de Canal+.
Stop aux hôtels classiques et aux petites chambres. À l'Hôtel du Centre, profitez de studios 3 étoiles de 30 mètres carrés avec vraie cuisine, lave-linge, sèche-linge, parking et Wi-Fi gratuit. Hôtel du Centre, tout le confort au meilleur rapport qualité-prix. Réservé au 230-700 ou sur www.hôteldducentre.nc.
Parce que chaque instant compte, AXA protège ce qui est précieux. Votre famille, votre santé, vos biens et votre épargne. AXA, plus qu'une assurance, un partenaire de confiance au quotidien.
Monté dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
Ce dimanche 10 mai, ne manquez pas le marché de mamie à Farino sur la place de la mairie de 8h à midi. Dans une ambiance conviviale et musicale, venez retrouver et découvrir les saveurs du terroir et notre artisanat fait main. Des idées cadeaux pour la fête des mères. Profitez aussi de notre street food à déguster sur le deck avec une vue exceptionnelle. Le marché de mamie, c'est le rendez-vous incontournable pour se détendre, partager et se faire plaisir. Alors ce dimanche, on vous attend nombreux. Cap sur Farino.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité sur le territoire, c'est la suite d'Info Matin. On retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité institutionnelle avec la réunion hier hebdomadaire du gouvernement. Il a adopté un projet de loi du pays qui porte création d'un code de l'habitat calédonien. Il s'agit de faire un cadre législatif qui va se déployer par étapes pour mettre en œuvre la politique publique de l'habitat en Nouvelle-Calédonie et qui doit aboutir à des réformes et à des créations d'outils et de moyens pour garantir un cadre unique et adapté aux réalités et aux attentes des acteurs concernés. Les membres du gouvernement ont également examiné un avant-projet de loi du pays intitulé « Des entreprises adaptées pour garantir l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ». Il s'agit d'un nouveau modèle d'entreprise qui a pour ambition de conjuguer performance économique et mission sociale d'insertion et d'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Une nouvelle étude lancée pour mieux comprendre l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Calédonie. Une convention a été signée hier entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'Agence française de développement. C'est une nouvelle étape pour mieux mesurer la situation de cette économie. Économie informelle, mais avec une réelle potentialité, à condition toutefois d'achever sa structuration. Cette étude permettra aussi d'identifier les besoins des acteurs sur le terrain et de leur porter une meilleure reconnaissance. Naya Wateu, membre du gouvernement en charge de ce secteur.
Sur les acteurs qui sont ceux clés de l'ESS, on connaît très souvent les associations, puisque ce sont les premiers acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elles sont à l'initiative de cette démarche dite d'utilité sociale, mais on retrouve aussi les coopératives, les mutuelles, les fondations et des entreprises avec cette notion d'utilité sociale au travers de ce label ESUS que nous avons engagé au travers d'un arrêté en début d'année. Un autre acteur essentiel et qui fait toute la spécificité de cette loi du pays ESS en Nouvelle-Calédonie, c'est l'intégration des GDPL. Parce que là aussi, on considère que ce développement développement économique sur terre coutumière doit pouvoir s'amorcer d'une manière différente. Historiquement, dans l'idée collective, les GDPL se démarquent plutôt par une démarche de revendication foncière, alors que ce sont des outils de développement économique. Pouvoir les intégrer dans cette économie sociale et solidaire, c'est aussi pouvoir retravailler cette manière d'entreprendre sur terre coutumière, dans un modèle qui correspond plus à la manière d'entreprendre.
Une mise à jour des données de l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui nécessaire. L'Agence française de développement financera cette étude à hauteur de 7 500 000 francs. Il s'agit aussi de permettre à ce secteur de compter dans le cadre de la politique globale de la relance économique initiée par le gouvernement. Cette étude stratégique est prévue pour durer 6 mois. L'Assemblée générale de l'Association française des maires se réunit aujourd'hui pour la première fois depuis les élections municipales des 15 et 22 mars qui ont vu un large renouvellement des maires. Et dans ce contexte, le président de l'association et maire de Boulou-Paris, Pascal Vittori, a invité plusieurs nouveaux élus, mais il ne sera pas procédé aujourd'hui au renouvellement du bureau.
On est l'Association française des maires et donc j'ai pris l'initiative d'inviter les nouveaux maires non indépendantistes et qui sont susceptibles de pouvoir rejoindre notre association. Et donc j'ai invité le maire de Thiot, j'ai invité le maire de Connay, j'ai invité le maire de Pointe-Boute, j'ai invité le maire de Coumac. Et puis on a de nouveaux maires à l'Île-des-Pins et à Kouaoua, mais qui sont invités également. On ne procédera pas immédiatement à la demande de certains maires, on ne procédera pas immédiatement donc au renouvellement du bureau. D'abord parce qu'il faut qu'on apprenne à se connaître un petit peu. Et puis parce qu'il y a des maires qui ne pouvaient pas être présents. Donc on attendra que tout le monde soit présent pour pouvoir renouveler ce bureau. On est un petit peu pressé par les institutions et notamment le gouvernement. On a plus de 100 représentations à l'Association française des maires dans les différentes institutions. Donc on procédera dans quelques nominations, mais en tout cas pour le bureau, on attendra un petit peu.
Et lors de cette Assemblée générale, les maires parleront refondation et aide de l'État aux communes. Ils recevront par ailleurs la présidente de la Chambre territoriale des comptes ainsi que le général Soubrier, le commandant supérieur des FANC, pour évoquer les 80 ans du retour des volontaires du Pacifique. Pascal Vittori, qui était notre invité hier soir pour nous présenter la fête du cerf et de la crevette qui animera Boulou-Paris ce week-end. Une cérémonie hier matin à Dimbéa. Le haut-commissaire Jacques Billan, le maire de Dimbéa, Cynthia Jean, le député Nicolas Metzdorf, le premier vice-président de la province sud, Gilles Brial, ainsi de plusieurs élus et représentants d'entreprises se sont retrouvés pour la réouverture du groupe scolaire Louise de Grélan. C'est dans le quartier de Jacarandas, Lionel Sabot.
Oui, fortement dégradé durant les émeutes de 2024, l'école a réouvert ses portes le 20 avril dernier après plusieurs mois de travaux de reconstruction. Les travaux engagés représentent une enveloppe de 278 millions de francs, dont 152 millions pris en charge par l'État au titre de la reconstruction et ont mobilisé une dizaine d'entreprises. Le haut-commissaire Jacques Billan.
C'est un moment important et je tenais vraiment à être présent aux côtés de Madame le maire dans le cadre de cette inauguration de l'école Louise de Grélan reconstruite. Elle a été incendiée par deux fois en 2024 et j'avais eu l'occasion, peu après mon arrivée, de venir ici au moment où on procédait au lancement du chantier. Me retrouver ici au milieu des enfants, au milieu des enseignants, avec tous les élus, c'est un moment très symbolique, très important. Nous avons fait en 2025 de la reconstruction des bâtiments publics détruits pendant les événements de 2024 une priorité avec un engagement financier de l'État à hauteur de 80% et en montant même à 100% pour les établissements scolaires. Nous savions qu'il y avait urgence pour assurer la continuité de l'enseignement. Vous avez vu que nombreux étaient les enseignants présents mais aussi les parents, hein, fiers de retrouver une école à la hauteur des enjeux que nous portons en Nouvelle-Calédonie en matière d'enseignement.
Les locaux du désormais groupe scolaire Louise de Grélan dispose de 12 classes, 8 pour les primaires, 4 pour les maternelles, mais aussi d'une cantine, d'une salle informatique et d'une bibliothèque. En revanche, l'école maternelle Les Jacarandas, fortement dégradée également pendant les émeutes, a été définitivement fermée, mais la commune a des projets pour ses bâtiments. Cynthia Jean, maire de Dimbéa.
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons réouvert cette école et aujourd'hui cette cérémonie l'a montré. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de protéger cet espace sacré qu'est l'école républicaine, un lieu d'enseignement gratuit, laïque, ouvert à tous. Et on a essayé de donner ce message à chacun des acteurs de la communauté éducative, des parents d'élèves. C'est que nous allons, nous mobiliser entièrement pour protéger, préserver nos écoles et puis surtout qu'elles puissent offrir à tous les enfants du quartier un lieu d'apprentissage apaisé. Nous avons profité de cette cérémonie pour emmener à nouveau Monsieur le Commissaire sur le site de la maternelle Jacarandas, juste à côté, qui a été elle aussi détruite. L'idée, c'est de solliciter à nouveau l'État pour pouvoir avoir un financement et convertir cette école maternelle dans un projet socio-éducatif, culturel, pour offrir là aussi un nouveau service aux habitants du quartier et au-delà à tous les Dimbéens.
Et le groupe scolaire Louise de Grelon accueille pour le moment 127 élèves, dont 40 en maternelle. Outre le directeur, l'équipe pédagogique est constituée de 7 enseignants. Par ailleurs, la ville de Dimbéa met à disposition de l'école 9 agents municipaux.
Merci Lionel Sabot. Il est 6h passées de 56 minutes. On va marquer une dernière pause publicitaire avant de voir l'actualité sportive. Et on parlera évidemment de football avec cette deuxième demi-finale retour de la Ligue des Champions. Ça se passe plutôt bien pour le Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Le rappel des airbags Takata concerne une grande majorité des constructeurs automobiles à l'échelle mondiale. Vous êtes propriétaire d'un véhicule BMW, ce message vous concerne. En effet, le groupe automobile CPH informe ses clients qu'une campagne de rappel concernant des airbags de la marque Takata est toujours en cours. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule BMW mis en circulation entre 2000 et 2019, votre véhicule, selon son année et son modèle, est peut-être concerné. Réalisé exclusivement dans les ateliers de Prestige Motors, de rue Edmond Arbulot à Nouméa, le remplacement des airbags Takata défectueux est entièrement gratuit. Comment vérifier si votre véhicule fait partie du rappel? Le groupe CPH a créé un site spécial pour cela. Rendez-vous sur cph-campagne-de-rappel-takata.nc et saisissez votre numéro de châssis pour obtenir une réponse immédiate. Tapez cph-campagne-de-rappel-takata.nc. Si vous êtes concerné, prenez rendez-vous aussitôt via le site ou contactez notre atelier agréé par téléphone au 44 30 00 ou par email à reception.prestige@cph.nc. Groupe CPH, toujours à vos côtés. Pour votre sécurité.
Direction Koumac pour les journées portes ouvertes du RSMA. Samedi 23 et dimanche 24 mai de 9h à 18h, venez découvrir le RSMA, ses formations et ses volontaires. Au programme, animation pour petits et grands, démonstrations, bingo et tournois de pétanque. Entrée gratuite et restauration sur place. Toutes les infos sur Facebook. Ne manquez pas fin mai les journées portes ouvertes du RSMA à Koumac.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin avec l'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et en football, on joue donc ce matin la seconde demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, est en déplacement sur la pelouse du Bayern de Munich. Lionel Sabot.
Oui, et effectivement Nicolas, vous vous souvenez la semaine dernière de mon enthousiasme pour la première demi-finale, match qualifié par votre serviteur de déglingo. On n'est pas là ce matin, hein. C'est un peu plus calme, mais la bonne nouvelle, c'est que le Paris Saint-Germain mène 1-0, but signé Dembélé sur un superbe centre de Kvara dès la deuxième minute de jeu. Sur l'ensemble des deux matchs, quand même, le Paris Saint-Germain mène à la pause 6-4, c'est bien parti pour une qualification pour la finale de cette Ligue des Champions. Mais attention aux Bavarois qui peuvent être toujours dangereux. On se souvient que la semaine dernière, ils étaient menés 5-2 et étaient remontés à 5-4. Donc rien n'est fait à l'Allianz Arena pour les Parisiens qui mènent 1-0 à la mi-temps.
Vous êtes sévère, ça joue au ballon quand même. Un mot de tennis avec la suite des tournois WTA 1000 et Masters 1000 de Rome.
Alors ça se passe beaucoup moins bien, évidemment, c'est du tennis pour les Français engagés dans ce tournoi. Chez les messieurs, Alexandre Muller s'est incliné devant le Hollandais Van de Schloop 7-5 6-3. Chez les dames, Léolia Jean-Jean s'est imposée, elle, 7-6 6-4 face à la Brésilienne Amad Maya. Élimination en revanche de Loïs Boisson qui s'est inclinée en 2-7 6-2 6-3 face à la Tchèque Sinakova.
Allez, la météo, c'est avec Thierry.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin nuages et averses remontant sur le nord-est et la pointe nord. Ailleurs, le ciel sera peu à passagèrement nuageux, malgré encore quelques gouttes possibles sur Ouvéa, orienté est-sud-est. Le vent pour ce matin, 10 à 15 nœuds, localement un peu plus sur la pointe nord. Sur l'ouest, il sera plus faible, entre 5 et 10 nœuds. Cet après-midi, sur la pointe nord, les averses s'estomperont progressivement, tandis que les nuages céderont du terrain face aux éclaircies. Bonne nouvelle, ailleurs le temps sera sec et bien ensoleillé. Le vent orienté est-sud-est, toujours 10 à 15 nœuds, voire 15 à 20 nœuds. Ça sera sur la pointe nord et cette fois le sud-ouest. Les températures, elles comprises en général, Nicolas, entre 26 et 31 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur de la rédaction et vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46.
Toute l'info en trois lettres, RRB.